VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal présidentiel au Mali. 18 des 24 candidats au premier tour du scrutin le 29 juillet ont exigé ce lundi le départ du ministre chargé des élections. Les intéressés dénoncent aussi un hold-up électoral par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour. Selon la déclaration lue aujourd'hui à Bamako par le chef de file des protestataires, Soumaïla Cissé, qui a recueilli le 29 juillet 17,8% des voix contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta, les signataires exigent la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Orlaf, principal responsable du hold-up électoral selon eux. Les 18 opposants exhortent également la population de la capitale et de la ville voisine de Kati à participer massivement à ce qu'ils appellent un grand meeting de dénonciation de la fraude et de défense de la démocratie demain 7 août à partir de 16h temps universel et local à Bamako. Les trois candidats arrivés derrière Ibeka au premier tour, à savoir Soumaïla Cissé, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo et l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement en troisième et quatrième position au premier tour, avaient déjà annoncé dimanche la saisine de la Cour constitutionnelle du pays, faisant état d'irrégularité lors du scrutin du 29 juillet. Côté gouvernement, en dépit des contestations, le Premier ministre Soumaïla Mbeki se penche déjà sur l'organisation du second tour prévu le 12 août, avec en toile de fond le problème des bureaux de vote où le premier tour a été perturbé. On l'écoute.
Quand on parle de 700 et quelques bureaux de vote, ce n'est pas 700 centres, parce qu'il y a souvent beaucoup de bureaux dans un seul centre. Donc nous avons analysé les raisons qui ont fait que le vote n'a pas été possible. C'est souvent lié à l'impraticabilité, c'est souvent lié aux menaces qui ont été reçues par les populations. Il y a eu des attaques contre des bureaux, soit avant, soit après, avec enlèvement de matériel. Et donc nous allons réadapter notre dispositif de manière à pouvoir contenir éventuellement ces actions-là.
Le Premier ministre malien Soumaïla Boubacar Keïta à Bamako au Mali. A noter que la Cour constitutionnelle doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour qui se tient le 12 août et pour lequel Ibrahim Boubacar Keïta est donné grand favori. Au Bénin, le peuple n'aura plus à se prononcer sur la révision technique de la Constitution, comme le voulaient les députés le 5 juillet dernier. Le président Patrice Talon a en effet décidé qu'il n'y aura pas de référendum. Il l'a dit lors du traditionnel discours à la veille de la fête de l'indépendance. Les précisions de Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas organiser de référendum sur ce sujet.
Ce bout de phrase aura eu le mérite de créer la surprise au sein de l'opinion publique. Personne ne pouvait imaginer que Patrice Talon, après avoir tant cherché la révision de la Constitution, pourrait refuser de saisir l'opportunité que lui ont offert les députés en décidant que le peuple se prononce sur la révision technique de la loi fondamentale. Pour le chef de l'État, l'urgence ne saurait être l'organisation d'un référendum à quelques mois de l'organisation des législatives. Patrice Talon.
Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher. Et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais elle ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure, un enjeu prioritaire.
Beaucoup saluent la clairvoyance du chef de l'État qui, en décidant de ranger au placard un projet qui lui est cher, montre qu'il reste attentif. David Bioku est un acteur politique.
Le chef de l'État a démontré encore une fois au peuple béninois qu'il est le président et qu'il a le souci de son peuple. Il y a un point capital, c'est l'humilité de l'homme.
Dans le camp de l'opposition, on se frotte les mains que le président de la République ait enfin compris qu'il ne servait à rien d'opérer une révision de la Constitution en urgence et dans la désunion en ayant à dos une une partie de la classe politique béninoise.
L'heure n'est pas à une révision et opportuniste à vive allure. L'heure est d'abord à la résolution des problèmes sociaux dans le pays. La Constitution ne résout pas le problème de la pauvreté. Pour l'instant, nous disons que c'est une perte de temps même de s'occuper du fond du projet de la révision.
Ce refus d'organiser le référendum, malgré que ce soit un projet porté par les députés de la majorité présidentielle, est un appel au sacrifice pour l'intérêt supérieur de la nation, pense Karamat Fagbourou, elle aussi acteur politique.
Il nous a donné le là, il nous a expliqué où on va, comment on y va et quel est l'objectif à atteindre, qui est le développement de notre pays. Le président Talon a compris quel était l'intérêt, les besoins de notre pays.
Même si la route qui conduit à la réforme constitutionnelle semble parsemée d'embûches, Patrice Talon ne désespère pas pour autant.
Je suis convaincu qu'un jour, le sens de l'intérêt national et la raison finiront par l'emporter sur la politique politicienne. Ce jour-là, que j'appelle de tous mes voeux, les acteurs politiques trouveront à leur sein le consensus nécessaire pour valider une réforme dont l'utilité n'est plus à démontrer.
Rappelons que le référendum devrait porter sur l'amendement de 4 points précis, à savoir le couplage des élections, la représentativité des femmes au sein du Parlement, la création de la Cour des comptes et la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. De Cotonou, Jeanette Floyd, dans les pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, qui ont nourri la nuit dernière ainsi que dans la matinée de ce lundi à Lubumbashi, la grande métropole du sud-est du pays, d'après notre correspondant local, Narval Mabila. Des tirs qui visent, selon lui, à empêcher les gens de manifester contre le refus des autorités de laisser rentrer en RDC l'ancien gouverneur et candidat à la présidentielle de décembre, Moïse Katumbi. La tension reste perceptible aujourd'hui à Lubumbashi, notamment dans les quartiers Tabakongo, Kalebuka et Apollo. La police congolaise a placé des checkpoints à l'entrée de la commune de Kenya avec contrôle des pièces d'identité pour accéder au centre-ville du chef-lieu du Haut-Katanga. Au Cameroun, poursuite des violences en zone anglophone, au moins 5 membres des forces de sécurité, 4 gendarmes et un policier y ont été tués dimanche. Les 4 gendarmes ont perdu la vie et plusieurs de leurs collègues ont été blessés à Issou, village de la province du Nord-Ouest, près de la ville de Roum, suite à l'attaque d'une brigade locale de gendarmerie par des sécessionnistes dimanche matin. Quant au policier décédé, il a été assassiné à son domicile par des inconnus dans la localité de Moutenguéné, près de Boya, chef-lieu de la province du Sud-Ouest, selon des témoins. Le conflit en zone anglophone ainsi que la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du pays risquent de perturber le scrutin présidentiel prévu le 7 octobre, où le président Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, est candidat à un 7e mandat consécutif. Crise au Soudan du Sud, nouvelle donne politique dans le pays après la signature par le gouvernement et les rebelles sud-soudanais d'un accord de partage du pouvoir dimanche à Khartoum. Au Soudan, l'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le plus jeune pays au monde, Jean-Roger Bion.
En vertu de l'accord, le chef rebelle Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. L'accord a été signé hier dimanche en présence du président soudanais Omar el-Béchir et de ses homologues du Kenya, d'Ouganda et de Djibouti, ainsi que de plusieurs diplomates étrangers. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont déjà convenu d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Les deux camps avaient signé le 25 juillet un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Pour parachever ce processus, les négociations vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Après, les belligérants auront 3 mois pour former un gouvernement de transition pour une durée de 6 mois. Il sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Un accord similaire signé en 2015 avait été violé après une bataille meurtrière qui avait obligé Riek Machar à partir en exil.
Actualité aux États-Unis pour terminer, le président américain Donald Trump a admis que son fils Don Jr. avait rencontré une avocate russe pour obtenir des informations sur Hillary Clinton, sa rivale démocrate à la présidentielle de 2016. Plus de détails avec Eric Maninakiza.
Le chef de la Maison-Blanche qualifie de totalement légal ce rendez-vous pourtant dénoncé comme l'indice d'une tentative de collision avec Moscou. Il s'agissait d'une réunion pour obtenir des informations sur une opposante, totalement légale, et cela se fait tout le temps en politique. Et ça n'a mené nulle part, je n'en savais rien, affirmait-il dans un tweet. Son fils, Donald Trump Jr., avait accepté avec enthousiasme de rencontrer l'avocate russe dans la tour Trump à Manhattan. Un intermédiaire lui avait promis des informations compromettantes émanant du gouvernement russe sur Hillary Clinton.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.